Chapitre 59. Charcot avait raccroché avec la scientifique du laboratoire de Bordeaux, abasourdi. Et maintenant, il fallait se triturer les méninges pour essayer de comprendre l'impossible. Comment une mère biologique pouvait être morte 3 ans avant la naissance de son fils ? Julie Samson avait évoqué la seule solution envisageable dans ce genre de situation. Émilie Robin avait été inséminée de façon artificielle. On avait déposé dans son utérus un embryon congelé depuis de longues années et qui portait, côté maternel, le patrimoine génétique de l'inconnu de l'étang de Mency. Samson avait expliqué que congeler des embryons était une pratique relativement courante dans les centres ou les cliniques d'insémination artificielle. D'après ce qu'avait compris Charcot, lors d'une fécondation in vitro, les biologistes fabriquaient plusieurs embryons, jusqu'à une dizaine. On inséminait la patiente avec un ou deux d'entre eux et on conservait les autres, des embryons surnuméraires, dans des bains d'azote liquide au cœur même de la clinique. En cas d'échec de la première insémination, ces embryons congelés pouvaient alors donner de nouvelles chances aux futurs parents. Samson leur avait aussi expliqué les problèmes liés à ces banques. Plongés dans des cuves d'azote à moins 196 degrés, combien de ces organismes attendaient que leurs parents décident de leur avenir ? Nouvelle implantation ? Don à un couple stérile ? Destruction ? Et que faire des embryons des parents divorcés ? De ceux qui avaient déménagé et ne donnaient plus de nouvelles ou des parents décédés ? Combien de ces possibles êtres humains étaient oubliés dans les profondeurs des cuves ? On estimait leur nombre à plus de 30 000. En raccrochant, Samson avait abandonné les policiers dans un état de tension et de stupéfaction intense. Les fesses rebondies de Charcot réchauffaient le bord du bureau de Nicolas. 3 sillons parallèles lui creusaient le front. Dehors, l'obscurité gommait les contrastes. Une nouvelle nuit froide arrivait. Les ténèbres dévalées, et avec elles, leurs fantômes.
Bon, réfléchissons. On remonte le temps, on part de ce qu'on sait aujourd'hui d'Émilie Robin, et on retourne en arrière pour essayer de piger quelque chose à ce fichu sac de nœuds.
Il se décolla du bureau, sélectionna une feuille vierge d'un tableau qu'il tira au milieu de la pièce et s'empara d'un marqueur noir.
Il y a quelques semaines, Robin est morte en fuyant un groupe auquel elle appartenait, le clan des phalanges coupées. Elle a été retrouvée et littéralement exécutée par Arnaud de Monchaux, alias le punisseur. Il lui a ouvert le ventre et sorti le foie en référence au mythe de Prométhée. Tout progrès scientifique majeur s'accompagne d'une catastrophe.
Charcot se frotta le menton, puis poursuivit.
7 mois plus tôt, en mars dernier, Robin donne naissance au petit Lucas, de la façon la plus anonyme qui soit. Elle se cache à Dijon, accouche à Auxerre et s'est arrangée par cette histoire de GPA illégale pour que Lucas soit recueilli par des parents censés rester anonymes.
Il nota les étapes essentielles. Lucie et Audra étaient elles aussi debout, attentives et concentrées.
Remontons encore 9 mois en arrière. Aux alentours de juin ou juillet 2016, au moment où Robin tombe enceinte. Il ne s'agit pas d'un rapport sexuel classique, mais selon toute vraisemblance, d'une insémination artificielle. Une FIV, comme on dit. Quelqu'un, un individu certainement très compétent, gynécologue, obstétricien, laborantin, ou dans ce domaine-là, décongèle un embryon déjà existant génétiquement étranger à Émilie Robin. Elle introduit en elle, la transformant ainsi en mère porteuse.
« Je sais à peu près comment ça fonctionne, » intervint Lucie. « La FIV, c'est complexe et technique. Même si De Monchaux a su manipuler des embryons de chiens, pour un humain, c'est une autre paire de manches. J'ai du mal à le voir réaliser une intervention pareille seule. » Encore moins dans son laboratoire.
Ils sont peut-être plusieurs. À ce stade, je me pose des questions auxquelles je n'ai pas la réponse. Pourquoi ? Et pourquoi Émilie Robin ? Connaissait-elle les origines de cet embryon ? Tout s'était-il déroulé légalement dans un centre avec des médecins ou de façon illégale ? Qu'était-elle censée faire de l'enfant si elle n'avait pas fui ni accouché normalement ? L'élever ? Enfin bref, on ne sait pas. On sait par contre que cet embryon va devenir Lucas, et on connaît l'un de ses deux parents. Il nota en grand « Inconnu de Mency », qu'il souligna à plusieurs reprises. Il s'agit de l'embryon qui doit la moitié de sa constitution à cette femme morte en 2013. Un embryon qui est resté congelé 3 ans quelque part dans de l'azote liquide à environ moins 170 degrés. Mais cet embryon, il a fallu le constituer, le récupérer avant de le congeler. Je veux dire, on ne l'a pas sorti du ventre de cet inconnu de l'étang pour le mettre dans une éprouvette.
Une autre fécondation in vitro ? Proposa Lucie.
Je ne sais pas comment tout ça fonctionne, mais j'ai assez de jugeotes pour dire que c'est forcément le cas.
Il pointa sa dernière note du bout de son marqueur.
Poursuivons. En 2013, un coup sur le crâne tue l'inconnu de Mency. Accident ? Meurtre ? On ne sait pas. De Monchot, notre commercial bien ami, assassin de Chevalier et d'Émilie Robin, lui brûle le visage à l'acide, lui brise les mâchoires et les pommettes pour empêcher toute identification. Puis l'enroule dans une bâche lestée avant de la balancer au fond d'un étang pour qu'on ne la retrouve jamais. Est-il son meurtrier ? Impossible de le certifier. Mais en tout cas, il est son nettoyeur.
Il nota Lucas.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce qui sera Lucas aujourd'hui existe déjà avant la mort de sa vraie mère biologique. L'inconnu de Mency a forcément donné un ou plusieurs ovules pour que l'embryon puisse se constituer. Combien de temps avant de mourir ? Des mois ? Des années ? Y a-t-il un lien entre la raison de sa mort et Lucas ? Et toujours la même question qu'on se pose depuis le début. Qui est le père biologique de cet enfant ?
Il regarda sa montre, puis désigna une pile de dossiers rapportés de son bureau.
Dès demain, il faudra m'éplucher en profondeur le dossier Mency, voir si les collègues de Versailles ne sont pas passés à côté de quelque chose, un détail qui prendrait tout son sens aujourd'hui. On doit découvrir qui est cette femme. Elle est la clé de toute l'affaire, j'en suis persuadé.
« Je vais m'y coller, » annonça Lucie.
Charcot acquiesça et se tourna vers Audra.
« Tu sais si Pascal a pu récupérer les infos de la boîte de Demonchaud, IDF Med, ses collègues, ses clients ?»«
Je ne crois pas. Si tu veux, je vois avec lui et les rappelle demain à la première heure, si nécessaire. »«
Fais-le, oui. Quand l'inconnu de Mency a été tué, Demonchaud bossait déjà pour cette boîte. Une société qui fournit du matériel à des cliniques privées et des cabinets en rapport avec la procréation, c'est bien ça ?»«
Oui. » Obstétrique, gynécologie, centre de PMA.
Comme par hasard, un commercial est forcément en contact avec de nombreux spécialistes à l'intérieur même des cliniques et des laboratoires. Son métier, c'est une sorte de sésame pour pénétrer dans ces endroits sécurisés. Je veux que toi ou Pascal creusiez ça. Lucas a séjourné 3 ans au frais. Et ce n'est certainement pas dans le premier frigo venu. « Trouvez-moi les établissements où on conserve les embryons et qui figurent sur le carnet d'adresse de Demonchaud, aujourd'hui et il y a 3 ans. Ce quelqu'un qui a prélevé l'ovule de l'inconnu du lac et qui a inséminé Émilie Robin se cache peut-être dans les contacts du punisseur. »
Charcot considéra l'ensemble de ses notes.
« On doit mettre la main dessus. »